Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous.
Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bel été. Un été chaud, j'imagine, surtout si vous êtes au Québec. Je pense que partout au Québec, on a eu droit à quelques degrés de plus que ce qu'on est habitué et surtout l'humidité, je dirais. Quand même, j'ai passé un bel été, un été qui s'est pas nécessairement passé comme je l'aurais cru, mais qui s'est passé des belles choses quand même. Et d'ailleurs, ça m'amène déjà à faire un lien avec mon invité. Une invitée que j'ai travaillé quand même assez fort pour avoir. Et une invitée que j'ai rencontrée souvent, je dirais, depuis l'automne dernier, à faire de l'activité physique à l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, qu'on va nommer l'ASAM à partir de maintenant. Et mon invitée s'appelle Lise Veilleux. J'allais dire Madame Lise Veilleux, mais entre nous, on va laisser faire le Madame, je crois. Tout d'abord, bonjour Lise.
Ben, bonjour Martin.
En tout cas, appelle-moi pas Monsieur.
Bon, ça marche pas des deux bords. Okay, bonjour Martin. Merci de m'inviter, puis bienvenue chez vous, Martin.
Mais merci d'accepter, parce que je sais que ça va faire une bonne entrevue avec plein de choses positives, plein de points de vue. Et voilà, on va commencer en disant, parce que c'est un petit peu hors du commun, toi, Lise, tu as écrit 2 livres déjà dans le passé.
Ouais, j'ai écrit 2 livres autobiographiques. Mm-hmm. Dont le premier a pour titre « La vue en rose », comme de quoi que je dégage du positif. On voit ça en rose. Et puis après ça, ben le deuxième est intitulé « Vue du cœur », parce que là, ça parlait encore plus du cœur. Je pense que quand le cœur parle, ça dit beaucoup.
Mais ces deux livres-là se sont écrits dans une période assez rapprochée quand même. Le premier en 1998, mm-hmm. Le deuxième en 2003, donc exactement. À peu près 5 ans plus tard. Et là, depuis 2003, plus de livres.
Non, c'est comme si je suis devant la page blanche.
Oh.
Par contre, on m'a souvent demandé à quand le troisième. Et je disais toujours, il n'y en aura pas de troisième. Mais là, plus ça va, je me dis peut-être qu'il y aura un troisième, mais quand, je sais pas, j'attends peut-être l'inspiration, puis peut-être. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées et beaucoup d'encre qui a coulé sans que j'ai encore écrit, mais la vie m'a amenée sur des routes différentes depuis quand même 2003. Hein. Et puis peut-être, on verra.
Ben c'est le fun, parce qu'avant c'était non, puis maintenant c'est peut-être.
Ben oui, c'est déjà ça. Hein?
Puis j'ai l'impression, moi, que ça va être oui. J'ai comme j'ai comme ce feeling-là, OK? Mais, l'émission Connaissez-vous est là pour pallier un petit peu le trou qu'il y a eu depuis 2003, donc...
Ça prendra une autre entrevue, peut-être, pour parler du troisième. Tu vois que t'es en train de m'amener vers une possibilité que peut-être...
Ah ah! Mm-hmm. Et bon, ben tant mieux. Moi, en tout cas, je le souhaite, c'est sûr. Parce que ces livres-là sont disponibles au Service québécois du livre adapté.
Oui.
Donc, ceux qui auraient le goût d'aller les lire, parce qu'on va pas nécessairement raconter là tout le contenu des 2 livres aujourd'hui.
On fera pas ça, mais on peut brièvement dire que c'est de l'autobiographie, donc c'est du vécu, c'est des expériences de vie suite à la perte de vision. Grosso modo.
Oui,
avec les hauts, les bas,
oui.
Avec l'effet cocasse, puis ça, j'adore l'effet cocasse, parce que ça fait partie de la vie.
Et parce que t'as un rire aussi très communicatif.
Ce qu'on dit, oui.
Donc, par contre, ce que j'aimerais qu'on fasse, puis tu étais d'accord parce que je l'ai demandé avant, c'est qu'on fasse quand même un petit historique du début de ta vie, parce que moi, j'aime toujours ça commencer en sachant où tu es né, puis dans quel genre de famille, puis un peu aussi comment tu a découvert que tu ne voyais pas, si tu ne voyais déjà pas au début de ta vie, mais je pense que tu avais déjà...
Moi, je voyais lorsque je suis née.
Tu voyais?
Ouais,
c'est vrai, tu voyais quand même assez.
Ouais. Parce que moi, je suis née à Québec, je suis une Québécoise de naissance. Par contre, je suis partie de la belle ville de Québec, j'étais bébé, j'ai toujours vécu par la suite sur la rive sud, Longueuil et les environs. Et j'ai commencé à avoir des problèmes de vision à l'âge de 27 ans. Donc, tu vois j'ai beaucoup vu longtemps.
Ça paraît pas que j'ai relu les livres avant.
Ah oui, tu les as lus. Tu les as lus, mais ta mémoire étant ce qu'elle a, elle est chez l'être humain. Hein. Mais bref, c'est ça. Donc, vers la fin vingtaine, j'ai commencé à perdre la vue graduellement.
Donc, il y avait rien qui te laissait présager?
Non, pas du tout. Moi, je fonctionnais. Oui, j'étais myope, mais toute personne myope porte des lunettes, puis... L'affaire est réglée, hein?
Oui.
Et puis, ben, comme d'autres personnes qui vont m'entendre ou qui ont déjà entendu parler, ben, c'est la rétinite pigmentaire, c'est la dégénérescence des cellules de la rétine. Donc, on perd la vue graduellement et c'est sournois. On s'en rend pas compte qu'on perd la vue parce qu'on voit avec les yeux qu'on a et on pense que ce que l'on voit, c'est comme ça que tout le monde voit. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que d'autres nous font voir autrement ce que l'on voit. Oh là là, quel jeu de mots! Mais c'est vrai.
Et c'est là que ça doit être un peu difficile, parce que, bon, je me souviens, t'en parlais dans ton livre, tu occupais un emploi, tu étais secrétaire,
oui. Exactement.
Puis bon, là, à un moment donné, tu faisais plus d'erreurs, puis bon, c'était comme... Évidemment, tu t'en apercevais pas, tu
sais. Non, c'est ça. Non, parce que moi, je pensais que, bon, les erreurs que je faisais étaient dues aussi... au stress et le nombre, le volume de travail que j'avais à l'époque, il faut quasiment dire l'époque. Peux-tu parler de ça, Martin? L'époque, on n'était pas à l'ordinateur à cette période-là de ma vie. Donc, les conventions collectives, Dieu sait que c'est volumineux. Alors, il fallait taper ça dans son entier. Puis quand tu faisais une erreur, ben, il fallait que tu retapes la page au complet. Et c'est comme ça que je me suis aperçue, ou plutôt mon patron, qui lui avait un fils malheureusement accablé de multiples handicaps, donc celui de la vue, il était beaucoup plus à l'affût de détecter ça, il était plus sensible, c'est lui qui s'est aperçu que je faisais des erreurs, c'est même pas moi.
À l'affût, mais aussi, il était conscientisé.
Très conscientisé.
Ça, c'est quand même un plus dans une vie professionnelle, si on peut dire ça.
Ouais.
Mais reculons encore un peu à l'enfance, parce que moi, ce que tu dis, j'étais myope, tout ça. Bon, rien qui laissait présager des problèmes de vision sérieux. Mais quel genre d'enfant tu étais, toi, Lise? Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie?
Contrairement à mon rire, j'étais une... J'étais une personne très calme, très tranquille.
OK.
Ah oh, ouais. C'est mon petit côté, la joie au cœur. Qu'est-ce que je voulais? Je suis restée le cœur jeune. Non, j'étais une petite adolescente qui aimait beaucoup faire du vélo, qui aimait jouer à l'extérieur et qui aimait avoir des amis, qui aimait se baigner. Mais j'étais pas autant, entre guillemets, éclatée qu'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais.
Là, l'éclatement, c'est arrivé avec quoi?
Je pense que c'est le naturel qui s'est exprimé, tout simplement. Peut-être que plus jeune, j'étais peut-être un peu plus gênée, moins capable d'expression ou de m'exprimer. Puis avec tout le cheminement de ma vie, ben je pense que ça fait qu'avec le temps... C'est le naturel qui est sorti. Hein? Ne dit-on pas chasser le naturel et il revient au galop?
Oui, on dit souvent ça.
C'est ça.
Mais bon, OK, comme au secondaire, quand est venu le temps de penser à...
Ma carrière!
Oui.
Je savais pas ce que je voulais faire. Puis là, je disais à maman, « Moi, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. » Et ma mère de répondre, « Pourquoi pas secrétaire? » Ouais, secrétaire. Ouais, pourquoi pas? C'est une belle porte de sortie. Ben, dis, tu aimes les langues, tu écris bien, tu as des bonnes notes en français, tu as des bonnes notes en anglais, peut-être que, puis ça a fait une pierre deux coups. Je me suis dirigée vers ça parce que j'avais fait un peu de droit aussi, puis le droit, ben, j'aimais beaucoup. Mais finalement, c'est ça, je me suis dirigée vers le secrétariat parce que ça ouvre plusieurs portes, le secrétariat. On peut, aujourd'hui, nous sommes, administratif, côté administratif, on n'est plus des secrétaires, on est des associés, on est, comment ils disent
ça? Ouais, souvent on dit ça, ouais, hein, des adjoints.
Des adjointes administratives,
administratives,
voilà.
Administratives, tu sais, oui.
Plus c'est plus la semaine des secrétaires, ce n'est plus ça, j'ai connu ça.
Toi, tu l'as connu.
Oui, oh, oui, je l'ai connu.
Ça a cassé rapidement.
Avec le petit dîner, les fleurs et tout, 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 les chocolats.
Oui, oh. OK.
Oui.
Tu as été bien traité. Comme
très bien
bon,
traité.
Bon, ça, tu vois déjà ça.
Le vrai style secrétaire, tailleur et talon haut, là, le vrai look, là. Oui, oui, c'était ça, dans ce temps-là.
OK.
Ouais,
donc,
ouais, à la place Ville-Marie, entre autres.
Ah oui, à la place.
C'était prestigieux, le premier emploi à la place Ville-Marie, quand même.
Le premier emploi?
Le premier emploi.
À la place Ville-Marie.
Oui.
OK, OK.
Hein?
Quand même.
Quand même.
C'était ça, c'est un endroit quand même
assez prestigieux.
Assez prestigieux.
Oui, ça se place bien dans un CV, hein. Oui.
Donc, tu disais que tu étais intéressée par le droit,
oui.
Les langues. Mm-hmm. Bon, ça, ça a toujours été un intérêt, quelque chose avec lequel tu avais de la facilité.
Oui.
OK.
Oui, j'aimais. Puis finalement, ben c'est ça, j'ai laissé tomber le droit et puis je me suis enlevée du côté secrétariat. Puis j'ai travaillé quand même plusieurs années secrétaire là, dans différentes entreprises, grosses entreprises. Et puis voilà, après, ben pendant cette période-là est arrivé le diagnostic de la rétinite pigmentaire. C'est ce qui a fait changer carrément ma carrière.
Tout le cours de
ma vie, et, ouais.
Future, là.
Ouais, mm-hmm. ouais.
Parce que, ben ce que j'aimerais peut-être savoir, c'est que, bon, tu avais un patron qui était compréhensif, qui était un peu ouvert à... Mais à partir du moment où t'as perdu la vue, est-ce que c'est toi qui as décidé de cesser dans... Parce que là, secrétaire, j'imagine qu'à cette époque-là, ça devait être quand même compliqué, là, en ne voyant pas.
En fait, on m'a beaucoup aidé à de faire en sorte que je puisse garder le poste de secrétaire le plus longtemps possible. Et ensuite, on m'a offert un poste à la réception. Donc, je suis devenue réceptionniste de l'entreprise. J'adorais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Et c'est là que je me suis dit, j'aime les relations publiques. J'aime être en contact avec le public. Ça, ça m'a ouvert d'autres portes par la suite. Alors, il n'y a rien qui arrive pour rien, hein. Donc, on a essayé de me maintenir en poste assez longtemps.
OK.
Et jamais assez, je remercierai ceux qui ont été derrière cet appui.
Parce que c'est ça, là, le réceptionniste, quand même, t'accueillais
les gens.
C'est
l'image de la société, hein, souvent. Donc, ouais, j'accueillais les gens. Mais encore là, lorsque la vision diminuait, ben, il y en a un temps que j'avais de la difficulté à reconnaître les gens et c'est malheureusement pas visible dans mes yeux que je ne vois pas, donc ça devenait vraiment complexe.
Ça devenait embêtant.
Embêtant, embarrassant.
Ouais. Toi qui reconnais plus les gens, les gens qui comprennent pas pourquoi que tu,
D'où la complexité de cette fameuse pathologie oculaire. Ouais.
D'accord, mais ça a nécessité bon un revirement de carrière.
Mm-hmm.
Tu parlais de relations publiques. Je sais que t'as fait quand même beaucoup de choses. T'as fait, je sais pas si tu veux en parler un peu là, mais t'as fait des conférences. T'as fait. Mais comment ça s'est enligné tout ça?
Mon changement de cap.
Oui.
Ben, j'avais suivi un cours en communication et puis suite à ça, j'ai fait un peu de radio communautaire. J'ai travaillé au musée juste pour rire, hein. Il y en a qui s'en souviendront en m'entendant.
Ben,
donc, on est en train de parler encore de public. On est en train de parler de communication, Martin, si tu vois un peu là, vers quoi je me dirige. Et à travers ça, j'avais un bon ami qui, lui... voyait que j'étais vraiment stressée, le diagnostic était lourd à porter, je vivais des gros changements professionnels, amoureux. Il m'a dit « Pourquoi tu vas pas te faire masser? » Je dis « Moi, me faire masser? » Il dit « Oui, ça fait du bien. » Alors, je suis allée me faire masser et il s'est passé un déclic pendant le massage. je me suis dit peut-être que ce serait une avenue vers laquelle je pourrais me diriger, suivre une formation pour devenir massothérapeute.
C'est en recevant le massage que ça s'est produit.
Exactement. Je suis allée me faire masser, j'ai senti le déclic, mais là j'ai dit sentir le déclic, aller suivre le cours et après devenir massothérapeute. C'est...
Ben, il y a tout un...
Ah, tout un monde, tout un monde. Et toutes des étapes à franchir. Mais la preuve en est que oui, j'ai senti le bon déclic parce que ça fait 20 ans que je fais de la massothérapie. Alors, je suis allée suivre la formation parce que éventuellement j'ai dû quitter mon travail. Là, il n'y avait plus moyen d'adapter de quelque façon que ce soit le poste que j'occupais. Et puis voilà, j'ai...
Est-ce que ça a été... Ben, je sais que la question paraît bête, là, mais bon, là, à un moment donné, il n'y avait plus moyen d'adapter le poste, il a fallu que tu quittes. Est-ce que ça... comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un grand moment où est-ce que tu t'as dit, bon, je dois digérer tout ça, puis remettre les choses en place?
J'ai eu beaucoup à digérer quand, sans faire de jeu de mots, là, je voyais que je ne voyais plus ou que je voyais moins. J'étais beaucoup plus consciente. J'observais ce que j'arrivais ou n'arrivais plus à voir. Et c'est là que je tombais un peu dans un creux de vague, là. Et le tsunami a passé, l'emploi s'est envolé, la vie amoureuse s'est envolée. Alors, le travail, c'est ça, s'est envolé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chambardements dans ma vie. Mais avec le recul, aujourd'hui, j'ai tout ramassé, tout ça. J'ai fait un beau petit paquet, j'ai fait le ménage dans tout ça. Et j'ai continué. Mon père me disait toujours, c'est une expression qu'il avait, « Retrousse-toi les manches! » Il me disait toujours ça, c'est une expression de l'époque. Puis, il avait raison. Ben, je pense que lui était plus en mesure de voir ma force de caractère, beaucoup plus que moi. Je savais pas que j'étais aussi solide que ça. Mais il faut croire que oui. Mais dire que ça a été facile, non.
Ça, non, certainement
non,
pas.
Non. Ça a demandé beaucoup. Mais j'ai acquéri beaucoup de confiance en moi, j'ai appris à me connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dit que c'est des épreuves, mais moi, je suis plus portée à dire que c'est des expériences de vie. Et c'est avec ça qu'on apprend à se connaître. Et c'est avec ça qu'on décide de faire quelque chose ou de rester là. Et de cheminer à son rythme aussi. Je pense que ça, il faut se respecter là-dedans.
Mais pour cheminer à son rythme, puis là, je parle pour ceux à qui j'ai en tête, là, puis que des fois, ne voient pas la solution, là. Tu sais, ne voient pas que c'est possible.
Ouais, c'est vrai.
Mais toi, quand même, ça, tu le voyais, là. Je veux dire, ça...
Je le voyais parce que tout de suite, moi, quand j'ai appris que je perdrais la vue, je me suis impliquée. Je sais pas, ça devait être en moi. Je reviens à ça, Martin, cet engouement pour les relations publiques, pour la communication. Je pense que c'est ça qui m'a donné mon tremplin pour aller vers les autres. Tu vois, il n'y a rien qui arrive pour rien.
Ça que t'as compris immédiatement que malgré la perte de vie, ben, même sans la vue, que la communication demeurait possible.
Là. Oui, oui. Donc, je me suis impliquée dans l'organisme qu'on appelait à l'époque la Fondation de la rétinite pigmentaire. Je suis devenue porte-parole pour cet organisme. Ça m'a amené à voyager à travers le Québec. J'ai rencontré aussi d'autres personnes atteintes. Et c'est là que je me suis dit, je suis pas la seule. Et c'est aussi là que j'ai compris que d'autres vivaient la même chose que moi et que par ricochet, ils avaient besoin d'entendre ce que moi je vivais. Tu parlais de conférences. Et ça rallie. Ça nous rallie. Et ça nous fait voir, sans faire de jeu de mots, qu'on n'est pas seul et qu'on peut y arriver. C'est juste qu'il faut prendre des routes différentes, des routes qu'on connaissait, qui était bien sillonné en tant que personne voyante. On tombe sur une autre route. On est un peu sur l'accotement pour un bout de temps, puis après, ben moi, j'ai pris l'autoroute. J'avais pas de temps à perdre.
Mais ça, j'aime ça, là, parce que, bon...
Allez,
pas,
go!
Pas de temps à perdre.
Non.
On a plus la vue, mais...
Mais on a la vie.
On a...
Hey. Hein? Bon.
Tant qu'on a la vie, hein?
Voilà.
On a l'espoir, là.
Exactement. Et je vis... beaucoup plus pleinement, il me semble, aujourd'hui. D'ailleurs, on me le dit souvent, mais qu'est-ce que tu ferais si tu avais la vue? Et moi, de répondre, peut-être que j'en ferais moins. Parce qu'on prend pour acquis quand on a la vue.
Mais c'est difficile de transposer. Moi, je faisais du vélo à la SAM récemment là avec une bénévole, puis elle me disait ça parce que bon, moi tu sais, je suis né quand même avec un œil qui fonctionnait complètement.
Mm-hmm.
Et là, elle disait ben si t'avais pas eu ton accident, t'aurais ton œil qui voit au complet. Puis tu sais, on peut quand même très bien vivre avec un œil à 100%.
Mm-hmm.
Mais j'étais là, ouais, mais je sais pas où ce que je serais certainement pas assis à l'arrière du tandem là.
C'est ça.
J'ai aucune idée où ce que je serais.
Exactement.
Alors.
Ouais.
Mais l'important quand même, c'est que une fois que tout ça est arrivé, t'as vu des possibilités. Moi aussi, j'utilise le mot
vu, ben, le mot oui, voir. Pour voir, constater, puis, hein, des possibilités.
Mais là, la massothérapie, c'est arrivé en quelle année exactement?
En 97. Donc, j'ai eu mon diplôme de massothérapie en 97.
En 97.
Ouais.
Parce que là, je voulais faire un... Parce que ça aussi, d'habitude, je le dis.
Mm-hmm.
Nous, toi puis moi, on s'est connus au musée Juste pour rire.
Oui!
En 95.
Quel bonheur! Hein? Eh, on a-tu... Musée Juste pour rire, ça me va-tu, ça?
Moi, c'était dans ma première expérience de travail.
OK.
Parce que j'avais 19-20 ans à ce moment-là. Mm-hmm. C'est sûr que je le voyais peut-être moins comme aujourd'hui je le verrais. Là.
Ouais.
Tu sais, toi, tu disais la communication, puis c'est vrai.
C'était vrai. Ça. Là.
C'était la sensibilisation, c'était de faire...
De voir. Démystifier et de faire voir les gens avec leurs autres sens dans tous les environnements qu'on leur faisait parcourir, hein? Le petit jardin, la zone rurale, le petit café-bar. Il y avait un endroit aussi où il y avait des objets que l'on pouvait toucher qui étaient comme
une salle immense, assez grande quand même.
Avec des statues, des objets divers à palper, à toucher.
Que les gens avaient beaucoup de misère à figurer.
Oui.
Parce qu'on la revoyait, cette salle-là, à la fin, à la lumière.
Ouais, hein, ouais, ouais.
Les gens étaient très, très surpris de...
De voir ce qu'ils avaient touché, pensant pas qu'ils avaient touché à ça.
Puis ils pensaient pas que c'était de cette forme-là.
De cette forme-là, ouais.
C'était incroyable. Mais ce qui était encore plus incroyable, à mon avis, c'est que les gens, quand ils venaient faire cette expérience-là, qu'ils allaient se retrouver 45 minutes dans le noir total.
Complet, total, zéro lumière, même pas une petite veilleuse, rien.
Rien.
Imaginez-vous un garde-robe, porte fermée, là. Et c'est noir.
Je pense que ces gens-là ne savaient pas comment ils passeraient à travers ça.
Oui, parce que dès qu'on franchissait les rideaux, et qu'ils franchissaient les rideaux, c'était des bons groupes quand même. On était quoi, une douzaine à peu près par groupe?
Ah oui, 8, 12.
Alors nous, notre travail, entre autres, c'était aussi de se rappeler du nom des gens. Parce que si je perds Martin dans un petit coin, là, puis après ça, ben il y a Suzanne que j'ai perdu, qui a tourné à gauche au lieu de tourner à droite, ben il faut que je me rappelle des gens pour pouvoir toutes les rapatrier, pour qu'à la fin du 45 minutes, il faut qu'ils soient tous rendus à la sortie intacts, hein, en bonne et due forme et en... sans aucune blessure.
Et ça impressionnait les gens qu'on se souvienne de leur nom, ça, oui. Je me souviens.
Mais ça les sécurisait
beaucoup. Ça les sécurisait aussi. Puis, ils ne nous voyaient pas avant non plus.
Hein? Exactement. Ça, c'est vrai. Donc, ils s'imaginaient peut-être Martin pas de cheveux, puis moi les cheveux blonds, je sais pas, tu sais.
Ils pouvaient nous imaginer, mais ils nous voyaient à la fin.
Ouais.
Mais le fait de pas nous voir avant, je pense que ça créait le lien que nous, dans le fond, on crée avec...
ce lien de confiance.
Avec monsieur, madame, tout le monde dans la vie de tous les jours, si on a à se déplacer puis à rencontrer des gens qu'on connaît pas.
Mais pour eux, c'était vraiment, je trouve, Martin, tu sais, faire confiance aveuglément, là, sans faire farce ou jeu de mots. Là, le contexte était vraiment à point. Il fallait vraiment qu'ils nous fassent confiance. C'était noir.
Nous faire confiance. Quand on arrivait dans le petit bar à la fin, il fallait qu'ils fassent l'expérience d'aller acheter
une canette
quelque chose avec l'argent.
Ouais, manipuler l'argent, payer, aller s'asseoir à la banquette. Ouais.
Ça fait que je pense qu'on sollicitait beaucoup de choses là chez eux cette
journée. Ils avaient même des soupers qu'ils servaient dans le noir et ça j'avais travailler à ça aussi.
Toi, tu en as fait plusieurs,
oui,
hein,
j'en ai fait plusieurs, ouais.
Parce que bon, on parlait des langues tantôt, là, mais toi, tu pouvais faire les parcours en anglais. Mm-hmm. Les soupers, c'était des fois aussi, avec des gens
en anglais. Oui, parce que c'était beaucoup le tourisme. Hein, ça avait lieu l'été, cette exposition Dialogue dans le noir.
Mm-hmm. Mm. Donc, nous, on s'est connus là.
Ouais.
Et on s'est pas vu tant que ça après.
Non.
Je me souviens qu'on s'est vu, je crois, au lancement de ton deuxième livre.
Oui.
Mais c'est ça. Après, moi, forcément, là, il m'en manque des bouts. Là. Ça fait que là, quand je savais que tu étais en massothérapie,
mm-hmm.
mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu. Je sais que tu en parles un peu dans le livre, mais bon, l'aspect, le cours de massothérapie,
mm-hmm.
C'était comment, là, dire, parce que bon, là, une fois qu'on fait le massage, on touche, hein, mm-hmm. on utilise nos mains, on utilise, mm-hmm. mais pour suivre le cours en tant que tel,
Ben, dans le temps, c'était cassette. On recule, hein? C'était des cassettes. Alors, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur cassette. J'enregistrais mes cours aussi. Donc, quand je revenais à la maison, j'étudiais et je passais mes examens oraux.
Okay.
Eux, quand c'était le temps, parce que j'étais la seule non-voyante dans la classe, parce que c'est une école qui n'existe plus maintenant à Longueuil, mais par la suite, j'ai poursuivi ma formation à deux endroits, dont une école à Montréal, l'école Guigec. Et puis, j'ai fait après mon shiatsu ici à Saint-Lambert. C'est un prof qui a 35 ans d'expérience et qui travaille, donne des cours de chez lui. Et donc, tout ça pour dire qu'à l'époque, c'était sur papier. Moi, j'apprenais par cœur, comme on dit dans le temps. Et quand venait le temps de passer l'examen, ben, j'allais dans le bureau du prof. Mais il y a eu un petit peu de jalousie. On croyait qu'on me favorisait ou que le fait d'aller passer seul mon examen avec le prof, qu'on m'accordait peut-être certains privilèges.
Et pourtant, si tu avais eu le choix de le faire...
comme tout le monde, Dieu sait que je l'aurais fait comme tout le monde.
Hein? Parce que, mettons n'importe qui, là, aller faire son examen oralement... là.
C'est pas même plus stressant que de prendre une feuille de papier.
T'as pas les questions sous les yeux.
Exactement.
Tu peux prendre du temps pour répondre, mais pas trop non plus. Puis revenir sur tes réponses.
Exactement. Puis dire, c'est ça, bien y penser, je vais effacer ça, puis je vais écrire ça à la place. Enfin, c'était comme ça, Martin, pour la première étape. Te dire que ça a été facile, non. Ça a vraiment pas été facile.
Mais comment tu as été perçu au départ? Est-ce que... pour les professeurs, c'était... parce que, je sais pas, c'est peut-être ma perception qui est mauvaise. Tu parlais de cassette,
mm-hmm.
mais est-ce qu'il y avait... parce que j'imagine qu'il va y avoir du graphique, des images.
Oui, ben là, à un moment donné, il y a eu comme toucher un cœur. On avait ça, on est allé dans un laboratoire où il y avait différents organes qui étaient comme de texture... plastifié, caoutchouté, en tout cas, peu importe.
Okay.
Et ça m'a donné la possibilité, pas juste pour moi, pour les autres aussi, ça m'a donné un gros avantage parce que je pouvais vraiment toucher et le visualiser, l'organe, le muscle, okay. sur un squelette.
Mais tout le monde
tout le monde avait accès. Oui, mais moi, ça m'a vraiment aidé.
OK.
Oui.
Donc, bon, là, les gens ont jacassé un peu, mm-hmm. bon, mais tu as quand même réussi,
oui, j'ai réussi
ton cours.
Oui.
Et comment ça a été pour l'emploi par après? Parce que là, quand on est massothérapeute, faut se monter une clientèle?
Il y a cette possibilité-là, ou essayer d'être embauché dans des endroits comme des spas, des hôtels et tout ça. Alors là, encore là, je me suis dit, bon, OK, on prépare son CV, puis on cherche. On envoie des CV un peu partout. Est-ce que je dis que je suis non-voyante? Est-ce que je le mentionne?
C'est une grosse question, ça, là. On se la pose.
Je me suis dit, si je le fais, est-ce que ça va me mettre des bâtons dans les roues ou ça va être un avantage? Je ne savais pas. Mais moi, je suis pas mal toujours portée à être authentique, vraie, parce que tôt ou tard, tout se sait ou pas mal dans la vie. Hein.
Ben, si tu le dis,
j'ai pas le goût de cacher, ils vont le voir.
Ça
va se savoir.
C'est dur à
cacher. S'ils me convoquent en entrevue, puis je ne l'ai pas dit, quand je vais arriver là, ils vont peut-être dire, ça part mal, elle ne l'avait pas dit. Donc, ça peut être un désavantage. En tout cas, bref, la première entrevue que j'obtiens, la dame au téléphone me dit, oui, je voudrais vous voir à telle heure, telle journée. Très bien, je dis, mais moi, je veux vous mentionner quelque chose. Tout de suite. Je voudrais pas perdre mon temps ni vous faire perdre votre temps. J'ai dit, je suis non-voyante, un, et deux, à l'époque. J'ai un chien guide. Hey, ça, c'était deux gros morceaux, hein, Martin?
Oui, c'est vrai, parce que le chien, on va en reparler.
Elle me dit, moi, pas de problème, je vous attends à l'heure. Je me dis, ah, ça se peut pas être si facile, ça peut pas. Puis, ça a été la formule gagnante pour moi. Alors, je me suis présentée, puis oui, j'ai été embauchée. Quand même, ouais.
Ça, ça veut dire que ça marchera pas nécessairement à tous les coups.
Non, mais ça marche
juste pour la carte de la vérité,
de la franchise, oui.
Ça peut être aussi très gagnant, là.
Mm-hmm.
Uh-huh.
Ouais.
Est-ce que tu veux nous parler un peu de tes expériences de travail? Est-ce que tu as des choses à nous dire à ce sujet-là? Est-ce que, avec la clientèle, est-ce que des fois ça amène des choses?
Dans l'ensemble, je te dirais, Martin, ça a toujours bien fonctionné. Tu vois, j'ai travaillé dans un hôtel au centre-ville pendant 5 ans. Je prodiguais la massothérapie, mais j'ai appris aussi les soins du corps, les enveloppements, les exfoliations, tout ça. Et je te dirais que c'était une clientèle quand même bien. Oui, il y a eu des moments ou des incidents, mais on trouvait toujours moyen de régler la situation. Et rien n'était toléré qui débordait du travail professionnel. On s'entend?
Oui.
Alors, quand c'est arrivé cette fois-là, ben, le certain monsieur a dû, c'est le cas de dire, se rhabiller et payer sans avoir rien eu.
OK.
Alors, hein?
Ouais, mais là,
on jouait sérieux.
C'était pas lié à ton handicap nécessairement,
non. Non. Non, pas du tout.
OK.
Et pour avoir travaillé à cet endroit-là, pour avoir travaillé dans un centre d'esthétique, à la maison, et encore aujourd'hui dans un centre d'esthétique, et en oncologie à Pierre Boucher, je te dirais que oui, il y a eu des incidents, mais je me suis très peu, et j'ai toujours fait en sorte que ça se règle sur le champ.
OK.
Mais qui n'a pas prise d'eux non plus,
okay,
à l'incident.
Je disais incident, mais je voulais dire aussi...
Une situation embarrassante ou dérangeante.
Ouais.
Hors contexte ou déplacée. C'est pareil.
Ou inconfortable.
Ou inconfortable. Mm-hmm, ouais. Mm-hmm. Ça se sent.
Sacré, t'as fait ça, t'as fait des centres d'esthétique, t'as mm-hmm. fait chez toi, donc un peu comme travailleur autonome.
Absolument.
OK. Ouais. Ah oui, c'est vrai, l'oncologie, t'en parlais dans ton livre, ça a dû quand même être... quand même assez spécial, ça aussi, là. C'est des gens qui ont le cancer.
Exactement, mm-hmm. Et les gens qui les accompagnent, donc les accompagnateurs. Là, c'est le massage sur chaise, et c'est autre chose, c'est pas la massothérapie sur table, donc les gens restent tout habillés, vêtus, et on prodigue la massothérapie ou les massages de pieds, ça c'est une autre qui le fait ça, pour comme prédisposer le patient avant de recevoir son massage. Donc, il est dans un état où son corps est plus disposé à recevoir le traitement.
OK, d'accord.
Ça va à ce point-là.
Ouais. OK, OK.
Donc, il le reçoit avant ou après. On souhaite toujours, possiblement, qu'il le reçoive avant parce que ça prédispose.
Mm-hmm.
Positivement, oui.
Puis toi, ça t'a apporté, j'imagine, aussi beaucoup de...
Ça m'a apporté, Martin, que la vie, là, c'est ici, maintenant, aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Parce que ces gens-là sont très vulnérables, ils ne portent pas de masque, ils sont vrais, ils ont rien à cacher, rien à nous faire croire. Ils sont comme, entre guillemets, en survie et en espoir. Et quand je côtoie ces gens-là, je me dis toujours, ouais, la vie c'est précieux et il faut le vivre, j'allais dire intensément, mais le vivre pleinement. Avec le ici et maintenant. Ça fait cliché, on entend ça souvent, hein, mais je le vis, moi, toutes les semaines. Et à chaque fois que je finis mon travail, quand je sors de là, je me dis, mon Dieu, que la vie est belle, on est chanceux quand on a la santé. Nous qui avons perdu la vue, ce pourrait être une façon de s'apitoyer sur son sort. Et souvent, j'ai une amie, justement, qui est en traitement encore, puis elle me disait, oui, mais Lise, t'as la santé. Puis c'est tellement vrai, Martin. On est en pleine santé. Et ça fait toute la différence dans la vie, ça. Donc, je avec tout mon cheminement, aujourd'hui, je croque à belles dents dans la vie.
Tu n'es pas quelqu'un qui s'ennuie, j'imagine?
Est-ce que très t'as, peu,
t'as
très
peu.
T'as-tu le
temps de t'ennuyer, des fois?
Très peu. Ça va m'arriver que j'ai des moments de dire, « Bon, qu'est-ce que je ferais bien? » Il me semble que là, j'ai rien de prévu aujourd'hui. Mais je trouve toujours moyen de... Puis des fois, ben, je me dis, « C'est comme ça, ça va être une journée tranquille, on va faire avec. » Puis voilà, elle est là pour ça, probablement, faire avec.
Et qu'est-ce que tu fais comme passe-temps, comme...
C'est la lecture, j'aime beaucoup lire, écouter les CD, j'aime beaucoup écouter justement des entretiens comme ça, des entrevues, des conférences, j'aime beaucoup aussi aller marcher. Évidemment, il y a le vélo qui est devenu une passion pour moi, donc je me tiens en forme, puis ça aide aussi au moral, hein. On n'a pas le temps dans ce temps-là, là. Les endorphines, ça devient une drogue douce. Donc j'essaie de jamais manquer de ma drogue douce. De jamais t'en manque.
Parce que tu parlais d'aller marcher. Je pense que tu as déménagé quelquefois aussi dans ta vie.
Oui, quelquefois.
Tu disais aussi que tu as voyagé.
Oui.
Est-ce que tu disais au départ, tu as voyagé au Québec pour...
Oui, quand j'étais porte-parole pour la Fondation de la rétine pigmentaire. Mais quand j'ai appris que je perdrais la vue, je me suis dit, je veux emmagasiner des souvenirs, des images. Alors, j'ai fait quelques voyages dans le sud. Je suis allée en Europe et jamais j'oublierai ces voyages-là. J'ai encore de très, très beaux souvenirs. Par contre, on sait qu'avec le temps, un peu, là, c'est un peu comme les visages des gens, ça s'estompe un peu, mais il en reste que les souvenirs restent gravés quand même. Puis, quand on a la chance d'avoir des gens avec nous qui nous décrivent les paysages ou peu importe, on arrive à garder des beaux souvenirs.
Est-ce que ça remémore un peu les descriptions de... Parce que, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont jamais rien vu,
mm-hmm.
qui vont se faire décrire des paysages, mm-hmm. qui vont se faire décrire, le soleil est jaune, puis le ciel est bleu, puis tout ça, mais qui ont pas d'idée des couleurs.
Pas de notion, mm-hmm. ouais.
Mm-hmm. Toi, est-ce que ça te...
Ça me parle encore?
Ouais.
Oui. Ah oui. Tu vas me parler d'un coucher de soleil, tu vas me parler d'un arc-en-ciel. La mer change du turquoise au bleu plus foncé, puis ça devient peut-être couleur bleu marin, marine. Étant donné que j'ai déjà vu...
Tu conçois c'est quoi ces changements de ton, de couleur, puis...
Malgré que quand on utilise ces couleurs-là, mais tu sais très bien aujourd'hui qu'on a des couleurs qui portent des noms qui nous disent absolument rien, hein?
Hey, ça, là, c'était vouloir nous compliquer la vie, hein?
Une couleur glamour. Ah oui, glamour. Je l'ai acheté de la peinture. OK, je vais mettre mon salon couleur glamour. Ça te dit quelque chose, ce Martin Glamour?
Moi,
ça ne me dit absolument rien.
Moi non plus.
C'était comme un petit rosé, je pense, en tout cas. Donc, ça te donne une idée que des noms, comme ça, là. Essayez de nous décrire la couleur. Bon, là, la personne va dire, c'est rose, mais ça teinte un petit peu sur le beige, puis un petit peu de crème à travers ça. Puis là, tu essaies de te faire une image, tu te dis...
Ça commence
à être lourd.
Parce qu'à chaque nom qu'il donne, il y a une teinte rattachée. Ouais, là,
exactement. Soleil levant. Ça, on peut s'attendre que c'est orangé. OK, c'est pas pire.
Ouais, ça peut donner une idée de base.
Ouais.
Mais hey, même si tu parles de rouge, si rouge, ça, bleu,
ben, c'est... oui.
Un moment
donné. Œil de tigre.
Non.
Vraiment. Non? OK. Ça, c'est comme marron, mais un petit peu rouge, je pense.
Ouais, mais tu penses que les personnes voyantes, eux autres, ils savent tout ça?
J'en doute. Exactement.
Ils ont un catalogue, là.
Oui, ils regardent ça, et de tigre, ils regardent à côté.
Ils vont dire, c'est beau, ça.
Oui, s'appelle... ils ont la charte des couleurs avec le nom à côté.
Ça s'appelle œil de tigre, tu sais. Mais est-ce qu'ils vont s'en rappeler dans 5 ans?
Il y a de quoi rugir. Ça rugit un tigre? OK, je vais rugir.
Mais tu sais, on parle de couleurs, puis ça m'amène ailleurs.
Allez donc.
Toi, Lise.
Allons-y, où allons-nous?
Toi, Lise, je t'ai toujours connue, puis ça remonte au musée, juste pour rire. Tu as toujours été une femme coquette,
mm-hmm.
hein, une femme qui aimait être bien mise. Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Parce que bon, moi, j'entends souvent des non-voyants qui vont dire, « Oh, moi, la façon je t'habillais, ça importe peu. On va me dire, bon, tel pantalon, ça va avec tel chandail, mm-hmm. puis bon, c'est la base, puis c'est simple, puis c'est correct pour eux. Est-ce que toi, je suis sûr que c'est plus compliqué, ça a été plus compliqué que ça, là?
Oui, mais à la fois oui, puis à la fois non, parce que je suis restée ce que je suis. Souvent, je dis aux gens, what you see is what you get. Je suis restée la même, dans le fond. Peut-être un petit peu moins, comment dire, ben ça change, là je suis devenue un peu plus sportive qu'avant, donc les tenues vestimentaires sont adaptées à ce que je fais, versus le travail de secrétaire qui demandait encore plus de coquetterie, puis j'ai rangé les talons hauts, là, c'est pas évident de marcher avec ça, à moins d'une sortie, mais non, j'essaie de garder ce qui fait partie de ma personnalité, ce petit côté... coquet, mais sans artifice et sans exagération, d'aucune sorte. Puis on a toujours des bidules qui nous permettent d'identifier les couleurs. Là, on va nous dire bleu pâle, on sait toujours bien que c'est bleu pâle. Puis un pantalon marine, mais on sait bien que le pantalon est pas orange. Hein?
Mais tu dis on a plus de bidules. On en a plus maintenant qu'autrefois.
Oui.
Toi, la technologie, Lise, dans ta vie, qu'est-ce que ça...
Ben, j'adore beaucoup mon iPhone. J'aime beaucoup.
Oui, t'es au iPhone.
Moi, quand je voulais pas.
Ah non?
Je voulais même pas d'ordinateur à l'époque.
Pour vrai?
Ah non, moi, je commencerai pas à taponner là-dessus, non, non.
Et est-ce que ça a commencé un peu obligé aussi, à un moment donné?
Ben, c'est quelqu'un qui m'a dit, Lise, ben voyons donc, essaie-le. Tu vas voir ce que ça fait. Puis, il y avait raison. De un, je pourrais plus m'en passer parce que, bon, tous mes documents, ma facturation, tout ça, c'est comme ça que je procède pour mon travail. Ça a commencé par l'ordinateur. Après ça, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, toutes les gadgets, comme je dis, les bidules qu'on a aujourd'hui, nous, là, autant pour la lecture, parce que je suis pas très habile au braille, donc moi, je fonctionne beaucoup, beaucoup en sonore. Alors, vive l'iPad, j'ai commencé avec l'iPad. Après ça, de l'iPad, je dis, oh, trop gros, je m'en vais avec l'iPhone. Donc là, j'ai l'iPhone, que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs. Donc là, je pourrais plus m'en passer.
OK. Mais ça a demandé un petit peu de... Au départ, là, l'informatique, c'était pas quelque chose qui
t'attirait. Non, je n'étais pas attirée par ça, mais je vois les bienfaits et la facilité de communication. On revient à la communication.
Oui.
À quel point pour moi c'est important et à quel point ça nous aide justement à rester en communication avec la planète, avec les voyants comme les non-voyants. Ça, c'est fascinant. J'ai une amie qui me dit tout le temps, Lise, je te le dis encore aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on est amis, quand je reçois des courriels, je suis encore fascinée de savoir que tu es derrière l'ordinateur ou derrière ton iPhone. Je suis fascinée. Alors, tu vois, hein?
C'est ça, parce que ça ouvre quand même à beaucoup de... À beaucoup de gens, à beaucoup de choses, là, beaucoup d'informations.
Beaucoup. Là. Tu vois, j'ai une amie qui habite l'île de la Réunion. Elle, c'est là, au bout du monde. On FaceTime, puis...
Il
n'y a plus de limite.
Mm-hmm.
C'est juste le 9 heures de décalage qui est difficile à nous coordonner.
Il ouais.
Faut que je me couche très tard ou je me lève très tôt.
Mais il y a moyen.
Mais il y a moyen, oui.
Et là, Lise, bon, tu habites seule maintenant.
Oui.
Tu te débrouilles bien, tu fais
la cuisine. Ça a été une bonne adaptation, ça aussi. Non, mais l'adaptation de vivre seule, mais pour le reste, ça n'a pas changé parce que faire la popote, les courses et tout, j'ai toujours trouvé les façons de faire. On a toujours nos chers bons bénévoles qui sont toujours prêts à nous donner un coup de main dans divers organismes comme le RAM, entre autres. Mais je suis bien entourée, je suis très bien entourée. C'est ça qui aide beaucoup.
Ça fait en sorte que tu réussis facilement.
Et souvent, Martin, je me suis dit, moi, mais pourquoi les gens... Je veux pas déranger, je veux pas être dérangeante, je veux pas être comme une surcharge pour quelqu'un, un fardeau. Puis si je demande trop, est-ce qu'on va me trouver... pas encore.
Accaparante.
Les gens me disent, souvent on me dit ça, Lise, c'est parce que t'oublies que pour nous, là, j'en vois pas de différence, Lise. Je vais avec toi, je sors avec toi, c'est plaisant, c'est agréable, j'apprends quelque chose, puis j'en oublie que tu vois pas. Alors, pourquoi ça deviendrait un fardeau? Pourquoi tu vois ça comme ça? Et je pense sincèrement que c'est le fait d'être bien accompagné qui fait toute la différence. Parce que la personne se sent bien, donc par ricochet, je me sens bien. Et c'est plaisant, c'est agréable, ça devient une sortie. Une amie me disait, tu sais, Lise, il faut que je le fasse mon épicerie. Fait que je la fasse avec toi ou que je la fasse seule, je vais la faire anyway. Fait que si t'as besoin de quelque chose, appelle-moi. Tout simplement. Puis si tu m'appelles pas, c'est parce que t'as besoin de rien. Puis si tu m'appelles pas puis t'as besoin de quoi, ben c'est bien de ta faute. Fait que vu comme ça, là, je me dis, c'est bien trop vrai. Pourquoi penser qu'on est toujours lourd à traîner?
Et là, c'était si gentiment offert.
Oh, plus que... oui. Mais c'est ça, je pense qu'on est... On dit qu'on choisit nos amis, hein, Martin, puis c'est vrai. Ou les amis nous choisissent.
Oui, mais encore faut-il sortir puis en rencontrer des gens.
Ah, il y a ça. Il y a ça. Parce que tu crois qu'il y a beaucoup de non-voyants qui vivent beaucoup d'isolement?
Je crois.
Mais et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne sortent-ils pas? Pourquoi restent-ils chez eux? Est-ce que c'est un manque de confiance, Martin? Est-ce que c'est parce qu'ils savent pas comment ou ils sont carrément mal dans leur peau? Il y a quelque chose.
Ouais. Ou une surprotection, je sais pas. Ah,
peut-être sont surprotégés par les personnes avec qui ils vivent. Peut-être qu'ils ne vivent pas seuls. Ça, c'est autre chose, Martin. Quand tu vis seul, là, si tu restes chez vous, là...
Tu vas rester seul longtemps.
Tu vas rester seul longtemps, puis ton frigo va être vide longtemps, hein. Façon de parler, mais c'est vrai.
Moi, c'est toujours ce que je dis. Je veux dire, tes amis, les gens que tu pourrais connaître vont pas atterrir dans ton salon.
Non.
Tu sais, ils vont pas dire, ah, tiens, ça a l'air beau ici, je vais rentrer. D'un coup, ça serait des gens agréables.
Ben oui, c'est ça.
C'est pas comme ça que ça se passe.
Non. Alors, je vois que t'es allé un petit peu, t'as pris la même route que moi.
Je crois.
OK.
Ben, je crois.
Ouais.
Parce que moi aussi, j'habite seule. Puis moi aussi, j'ai des amis qui me disent, moi, le samedi matin, je m'en vais au Super C, puis à toutes les
parce qu'on a tous les mêmes besoins. Qu'on soit voyant ou non-voyant, Martin, on est des humains, et on a tous les mêmes besoins. Hein?
Voilà.
Besoin d'être avec des humains, besoin de tout ce qui est vital, de base dans la vie.
Eh oui, c'est ça, d'être avec des gens, d'avoir des choses, d'avoir comme tu dis, de la nourriture, des vêtements, des divertissements.
Des divertissements, le côté social est important. Pour le moral, c'est trop facile de rester dans son nid et de penser que tout va se faire tout seul, c'est impossible. Il faut aller vers, tendre vers. Et c'est là qu'on va chercher ce qu'on a besoin, sans même souvent s'en rendre compte. Hein. Ça se fait naturellement.
Ça se fait automatiquement, ouais. Presque.
Moi, quand je vois des plus jeunes maintenant qui s'impliquent là, dans les organismes, là, peu importe l'organisme, autant au niveau du sport que dans du bénévolat,
c'est tellement merveilleux.
Tellement.
Mm.
Parce que si je me dis, hey, j'étais là, moi. Je suis passée par là, moi aussi. Je l'ai eu, cet âge-là. Donc, je me revois, puis j'applaudis à deux mains, puis je dis, oh, bravo, go!
Je pense que sur ces belles paroles, on va faire la pause, Lise, mm-hmm. Parce que c'est une belle... les gens vont avoir un
petit peu envolée, de temps.
Ouais. Oui, pour faire une petite réflexion. Bien que les pauses cette année, à Connaissez-vous, je vous le dis, ils vont être pas mal plus courtes. Donc, allez pas trop loin si vous voulez pas manquer le reste de l'entrevue. Parce que j'ai encore des petits sujets à discuter avec toi, Lise, si t'es d'accord.
Avec plaisir, Martin.
On fait la pause. Notre invitée aujourd'hui est Lise Veilleux.
À notre prochaine émission!
Peu de gens dans notre société peuvent se vanter de ne jamais avoir eu recours au chômage. Peu de gens également ont la conviction de s'impliquer en politique. Notre invité nous expliquera comment il a réussi son double tour de force. Monsieur André Vincent, à notre rendez-vous du 14 septembre.
Nous sommes de retour à Connaissez-vous avec notre invitée qui est Madame Lise Veilleux. Bon, là, j'ai dit Madame.
Ah, c'est bien, Monsieur Martin Chouinard.
Et là, j'aimerais ça qu'on parle parce que tu en parles dans tes livres, on en parle souvent dans les associations parce que évidemment, il y a d'autres personnes qui en ont. Des chiens guides. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, bien personnellement, ça a été quoi ton vécu avec les chiens guides, comment que t'as pensé à ça au début, que ça pouvait être utile, puis comment t'as fait la démarche. Moi, je te disais pendant la pause que j'étais en réflexion, je pense que ça pourrait avoir beaucoup de côtés positifs d'en avoir un. Et tu me disais, faut pas avoir peur des chiens. Mm-hmm. Mais toi, t'avais peur des chiens.
Ben oui, début. Ça commençait mal, hein?
Ben, ça commençait bizarrement, un peu.
J'avais peur des chiens, effectivement, jusqu'au jour, encore une fois, où quelqu'un me dit, « Ben, gars, je vais enlever son harnais, tu vas pouvoir lui toucher. » Et c'est comme ça que j'ai appris à ne plus avoir peur. Je trouvais ça gros. Je trouvais ça, je me dis, mon doux, là, il est même pas dans une maison que je le trouve gros. Imagine pas dans la maison, il va paraître encore plus gros. Mais c'est ça qui m'a aidé à me défaire de ma peur. Mais le summum où vraiment la journée où j'ai vraiment brisé complètement cette peur-là, c'est la journée où je suis rentrée chez Mira en mars 1995 pour aller chercher mon premier chien guide. Et que là, ils ont une autre façon de faire, mais là, ils ouvraient les portes et plusieurs chiens sortaient des enclos et se dirigent vers nous.
Oh,
et là, j'étais assise sur ma chaise et j'avais l'impression que Hugues grossissait et moi, je rapetissais.
Oh là là!
Là, oh. Je vois ça. Oh mon Dieu, ils sont dans mes gros! J'avais appris à respirer cette journée-là, je te jure.
En tout cas, à mettre en pratique tes techniques de respiration.
Et finalement, à la longue, bon, Lise fait l'asseoir, met sa main sur le bas de son dos, il me donne la patte. Plus ça allait, plus je me familiarisais et plus la peur s'estompait.
Est-ce que tu avais eu des mauvaises expériences avec des chiens ou c'était plus comme une méconnaissance?
Une méconnaissance. Puis malheureusement, souvent, les gens disent « j'ai peur des chiens », mais...
C'est un peu pour les mêmes raisons. Peut-être. Là.
Bon, je peux respecter ceux qui se sont fait mort.
Oui, oui, s'ils ont eu des mauvaises expériences, c'est une autre chose.
Ça, ouais. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est comme ça que la peur s'est estompée et que je suis allée chercher mon premier chien guide. Et après ça, il y en a eu un deuxième, après ça, un troisième. Et là, je suis, moi aussi, Martin, en réflexion d'un quatrième chien guide. Parce que j'ai perdu ma belle Miranda juste un peu avant Noël. Et avec le déménagement, tout mon changement de vie, j'ai eu beaucoup, beaucoup de deuil à faire. Et dans la même année, s'est ajouté le deuil de mon chien guide. Donc là, j'ai dit, là, c'est trop. Mon petit cœur n'a plus de place pour faire entrer un chien guide tout de suite. Donc, je suis en réflexion. J'attends. Okay. Ouais.
Mais revenons au premier chien guide, ouais. À Tequila. Ben, je l'ai connu, Tequila, au musée.
Le musée juste pour rire, voilà.
C'était elle qui était là. Ça faisait pas très longtemps que tu l'avais, en plus.
Ça faisait pas longtemps, ouais. C'est vrai.
Mais, bon, admettons, si on fait un petit parallèle, j'imagine, c'est sûr, chaque chien, c'est différent. Chaque chien a sa personnalité.
Ben, ça, c'est comme un conjoint. Drôle de comparaison, hein. Ben, ça se ressemble tout. On est tous des êtres humains, mais on a tous nos personnalités, nos caractères. Et c'est différent, mais ça se ressemble.
Mais on sait pas non plus. Ouais, c'est peut-être un autre parallèle. Oups. On sait pas non plus combien de temps qu'on va l'avoir, parce que.
Ah, bien dit, le conjoint non plus. C'est vrai qu'on sait pas parce qu'il y a des chiens qui tombent malades, il y a des chiens pour qui, pour X raisons, après tant de temps, ça fonctionne pas, mais ça, c'est de plus en plus rare. Tu vois, ma belle Tequila est décédée, elle avait 7 ans, ma belle Flûte est décédée, elle avait 13 ans, puis Miranda avait 10 ans. Alors moi, j'ai eu 3 chiens pendant 22 ans d'existence, donc je les garde longtemps, mes chiens, quand même.
Mais quand même, entre 7 et 13, il y a une pas pire marge aussi.
Une pas pire marge. En Flûte, ça a été le top des top des top, 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 top des chiens. Ouais.
OK.
À tous les niveaux. C'était le chien pour moi. Ouais. Qui convenait à tout, à ma façon d'être, à ma façon de marcher, mon rythme de marcher vite. Puis quand elle était au travail, elle était vraiment au travail. Puis quand je jouais avec, elle était vraiment en mode jeu. Puis elle savait vraiment faire la différence. Je le sentais dès que je la mettais au harnais. C'est pas tous les chiens qui ont cette capacité-là de faire l'association ou la dissociation. L'association, ça, je sais pas si ça se dit.
Bon, on va dire.
Bon, là, on va dire que ça se dit.
Les gens vont comprendre.
Ils vont comprendre. Mm-hmm. Voilà.
Ouais. Ok, c'est que c'est pas nécessairement toujours aussi instantané là chez les chiens que quand tu mets le harnais. ou quand t'enlèves le harnais?
Non, c'est une question de tempérament, hein. Mais de plus en plus, ils le savent que quand ils ont le harnais, ça veut dire je suis au travail, je porte mon habit, je m'en vais travailler. Ça leur donne comme, il se passe quelque chose entre les deux oreilles, là, c'est whoops, je suis au travail, j'ai une responsabilité. C'est comme ça qu'ils sont formés chez Mira, puis c'est vrai qu'ils le savent. D'ailleurs, leur position de corps, leur position de tête change. Ils sont toutes là. Il y en a qui sont un petit peu moins là, mais ça fait partie du tempérament. Il y en a qui gardent un tempérament plus enjoué, moins facilement ou plus facilement dérangeable ou dérangé par des bruits, par des « Oh, le beau chien! »
Ben ça, je suis content que t'en parles parce que ça, moi, ça fait partie un peu de... Parce que les gens sont beaucoup... quand un chien guide passe, là... Ça déplace de...
Oui, de l'air et des commentaires.
Oui. Puis, bon, là, on dit aux gens, ben faut pas le flatter, mm-hmm. faut pas même trop lui parler, mais tu sais, c'est difficile d'empêcher les gens de... La dame Amira, l'autre fois, elle disait même, faut pas les regarder.
Exactement.
Là. Sauf que, hey, ça commence à être
quelque chose.
Beaucoup demander aux gens de dire, regardez pas mon chien.
Ouais, ouais, ouais.
J'ai peur d'avoir de la difficulté à dealer avec tout ce...
Ben, faut en laisser passer, mais tu sais, Martin, dès qu'un chien se fait donner un sourire, moi, je le sens dans leur nez. La queue bouge, il y a quelqu'un qui me regarde.
Ouais.
Incroyable, hein? Ben, ils sont tellement beaux. Ça, c'est un moindre mal parce que tu brosses le harnais puis tu dis hey, porte attention.
OK, tu le ramènes un petit peu à l'ordre.
Ouais,
puis...
c'est ça. T'es au travail, mon garçon, ma fille.
OK.
Mais pour le reste, c'est vraiment. Moi, jamais j'oublierai le jour où j'ai mis ma main sur le harnais la première fois en mars 1995. C'est comme si j'étais derrière un volant. Wow, le feeling de décoller. Wow! Ça part, puis ça contourne tous les obstacles.
Ah oui, puis ça...
Oh!
Ça contourne les obstacles.
Avec aisance.
Oui, avec aisance. Ça t'arrête au coin de la rue.
Ouais. Mais il ne faut jamais oublier que nous sommes derrière le volant.
Oui, c'est ça. Exact.
Donc, si on ne veut pas se rendre au coin de la rue tout de suite, c'est nous autres qui va dire...
Ah oui!
Reste ou assis ou tu sais... mais c'est vraiment une façon de... Pour moi, en tout cas, il y en a qui sont très habiles, Martin, à la canne blanche, pour se mouvoir, se déplacer. C'est une habileté. Ils sont rapides, ils sont confiants, mais c'est pas tous et toutes qui ont cette capacité-là. Moi, je trouve qu'avec le chien, c'est ça que ça m'apporte. Mais je parle parce que j'en ai eu 3. Aujourd'hui, j'ai pas de chien, je vois la différence. Et c'est différent d'avoir connu ça puis de tomber à la canne blanche. C'est un autre mode de locomotion qui est vraiment différent.
Mais ça demeure un choix.
Ça demeure un choix.
C'est quelqu'un qui
décide. Parce que c'est une responsabilité, Martin, aussi. Hein? Tu dois t'occuper de ton chien. C'est pas une canne complique qu'on met dans le coin. Là. C'est pas un objet, c'est un être vivant.
Ça demeure un chien, là, comme... Un chien, comme ouais, si
avec
un
les
chien.
Besoins d'un chien,
c'est
le
ça,
marcher,
là.
Le brosser, les besoins, les vaccins, de l'attention, c'est pas un objet que tu plies puis tu mets au rencard quand t'arrives chez toi. Là.
Mais là, on va faire un autre comparatif,
ouais.
Une autre comparaison. Tu parlais de mettre ta main sur le volant.
Mm-hmm.
On pourrait comme quasiment comparer ça à une voiture. Si tu changes de chien, c'est un peu comme si tu changeais de voiture. On peut-tu dire ça comme ça?
Oui puis non. Ben oui, jusqu'à un certain point, parce que tu sois en Miata, ça c'est l'auto que j'aurais aimé avoir, ou que tu sois, je sais pas, en Mercedes, ok, ça roule pas pareil, le support ou le confort est différent. Pour ce qui est d'un chien, ben oui, ça aussi, ça peut avoir des modifications. Si tu prends un chien qui a 65 livres, puis t'en prends un de 100 livres, ça sera pas pareil, la portée va être différente, il va être plus haut, il va être plus gros, mais il en reste que tu vas avoir à quelque part le même feeling que tu sois derrière un volant de Miata ou un volant de Mercedes.
Mais disons, si on fait un autre, un autre point de comparaison. Ton premier chien, c'était bon, c'était ton premier, c'était ta
voilà.
première expérience. Mais ensuite de ça, quand on recommence
avec un autre,
je sais pas si je devais dire recommencer ou en tout cas, c'est une nouvelle expérience quand même, vu que c'est un nouveau chien.
Oui.
Bon, t'as quand même l'expérience de savoir ce que c'est marcher avec un chien.
Oui.
T'as déjà tout le...
Jusqu'à un certain point, parce que lui aussi, il a sa façon d'être. Il faut s'apprivoiser, il faut apprendre à se connaître.
C'est ça, mais tu connais les commandements.
On connaît les commandements. Est-ce que lui ou elle va les recevoir de la même façon? Est-ce qu'il a la tête plus dure? Est-il plus docile? Est-il moins docile? Répond-il aussi rapidement? Ou il répond un petit peu... Il y a des différences.
Et là, est-ce qu'on est porté à faire une comparaison entre les...
Au début, oui, mais ça fait partie, à mon humble avis, du fait qu'on se connaît pas encore, qu'on n'est pas encore, entre guillemets, fusionné. Et avec le temps, tout ça, ça se place. Parce que oublie pas que c'est deux êtres vivants qui doivent apprendre à vivre ensemble.
Puis que la classe dure quand même un certain temps, dans le but de...
Oui, c'est très sérieux, c'est très intense. On considère un mois, là, 26 jours à peu près. On travaille presque 5 jours et demi. Puis c'est beaucoup de rigueur.
Dans la semaine,
oui. Okay. C'est beaucoup de rigueur, mais je pense que tout est dans la constance. Avec un chien, moi, c'est tu donnes de l'amour... T'es constant, ta rigueur, ta discipline, puis t'as les 4 clés du succès.
OK. Ça fait que constant.
Mais il faut être prêt.
Mm-hmm.
Alors, moi, je suis encore en réflexion. Pourquoi? Simplement parce que je pense que je n'ai pas encore fait complètement mon deuil, mais simplement ça. Je pense que je suis juste pas prête. Moi, je fonctionne beaucoup par le cœur. Quand mon cœur est pas près. J'en ai vu depuis, j'en ai touché des ennemis qui ont enlevé leur nez. J'suis encore en réflexion. Puis je me respecte là-dedans. Puis c'est important parce que c'est un choix. Tu vas chercher, on parlait de conjoint, tu vas chercher un compagnon de vie pour peut-être 7, 8, 9, 10 ans.
Oui, pour un long terme
c'est
quand
ça.
Même.
C'est pas juste un joujou que tu vas aller chercher. Puis dans 2-3 mois, tu dis non. Je pense que de un, c'est pas se respecter, c'est de ne pas respecter la Fondation Mira qui dépense énormément d'énergie, de temps et d'investissement aussi à tous les niveaux pour former les chiens.
C'est quand même dispendieux.
C'est 30 000 $ au moins. Ils entraînent des chiens guides, des chiens pour les enfants qui ont le trouble de l'autisme et les chiens de compassion, les chiens pour aider à la marche. Donc, ils ont beaucoup de mandats à livrer. Et les chiens guides sont ceux qui demandent le plus d'entraînement comparé aux autres chiens qu'ils forment. Donc, il faut penser à tout ça.
Faut tout évaluer ça.
Puis, il faut qu'on puisse trouver le chien qui te convient. Le chien que tu aurais ne serait certainement pas peut-être le chien qui me convient.
Non, fort probablement
ouais,
pas.
Pour X raisons.
Mais après le premier chien, tu sais aussi, toi, plus qu'est-ce que...
Oui, qu'est-ce que je veux. Oui, et qu'est-ce que je veux pas.
Et ce que tu veux pas.
Oui. Il faut s'attendre à ramasser du poil, il faut s'attendre à avoir des pattes sales. Ton appart, ton condo, peu importe, sera peut-être pas aussi impeccable qu'il est présentement, ça fait partie d'eux. Mais d'un autre côté, ça t'apporte beaucoup. La présence, la vitesse à laquelle tu peux marcher, t'es plus en confiance en ce que je parle pour moi, tous les obstacles qui sont contournés. Puis cette présence-là, c'est un amour inconditionnel. Ça, il y a... difficile à battre, ça. Ouais.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aura peut-être un troisième livre puis un quatrième chien?
Oh! Bien dit! Peut-être. Ça aussi, ça demande réflexion.
Ben, ça fait partie du processus.
Ça fait partie du processus. Uh-huh. Oui, exactement.
Mm-hmm. Ouais. Et Lise, on a parlé à quelques reprises du vélo. La SAM.
Mm-hmm.
Ça fait longtemps que t'es à la SAM, toi?
Disons que ça fait quelques années. Quand je dis quelques, mon Dieu, je sais pas, peut-être 5-6 ans. Mais vraiment plus présente, c'est vraiment cette année.
OK.
J'ai beaucoup plus de temps. Je travaille un peu moins. Je commence à m'occuper plus du plaisir de faire du sport. Je prenais moins le temps. C'est pas que j'aimais pas ça, c'est que j'avais moins de temps et je prenais moins de temps pour le faire. Alors cette année, là, c'est devenu...
Et comment c'est... j'imagine que t'avais connu ça...
En fouillant, là, quand on perd la vue, puis de bouche à oreille, on apprend qu'il y a une association ici et là pour telle chose. Des bénévoles pour l'épicerie, des bénévoles pour les activités physiques, des organismes pour une autre affaire sortie culturelle. Donc, de bouche à oreille, puis de fil en aiguille, puis Internet nous apporte beaucoup, là, quand on fouille.
Et là, toi, je vais poser la question, même pour rien peut-être, là, mais toi, fonceuse comme tu es, aller dans les associations pour la première fois, est-ce que ça te demandait-tu beaucoup de guts?
Ben, ça m'en prend un petit peu, mais ce qui fait que j'incite ceux qui ne le font pas à le faire, c'est que tu vas retrouver des gens comme toi. Puis ça, c'est vraiment chouette. Tu vas dire, ben oui, gars, lui aussi, il a perdu la vue. Lui aussi, il est en processus d'apprentissage. Lui aussi, ça fait X nombre d'années. Ah, lui, ça fait juste... Ou elle, ça fait juste un an. Et on a tous à apprendre l'un de l'autre. La personne que ça fait juste un an est en processus, elle va peut-être avoir besoin de mon expérience, mais moi aussi, j'aime entendre où elle est rendue, cette personne-là.
C'est un partage, là.
C'est un partage. Oui.
De toutes sortes de...
De vécu.
La base est la même. On a des problèmes de vision, mais pas tous...
Niveau.
Pas tous au même niveau. Ça s'est pas tous passé de la même façon. On s'en sort pas tous
mais
de la même
façon communs.
Non plus.
Il y a des points communs.
Mais il y a beaucoup de points communs. Puis il y a aussi beaucoup de trucs qu'on peut aller chercher aussi des fois là.
Oui.
Chez l'autre.
Donc c'est win-win, tout le monde y gagne.
Et le vélo, Lise, oui. C'est vraiment ce que tu préfères
J'aime beaucoup la marche, mais le vélo j'adore. J'adore le vélo.
T'avais fait du vélo du temps de que tu
voyais. Beaucoup. Oh, j'aimais faire du vélo quand j'étais jeune, oui. Puis là, après ça, j'ai mis ça un petit peu de côté, puis après, j'en ai refait. Mais c'était souvent la difficulté de trouver des bénévoles. Et là, la SAM a tellement une façon maintenant de faire les choses qui nous permet justement de pouvoir avoir des bons bénévoles avec nous. Ils sont formés, puis ça incite à sortir de chez soi, puis aller prendre l'air. Et avec l'été qu'on a connu cette année, c'est l'année, l'été. T'es pour ça.
On a eu chaud.
Oh, mais c'est pas grave, ça. On libère les toxines, on se décrasse. On se décrasse. Puis c'est un bonheur partagé. Les bénévoles se trouvent heureux de faire du vélo aussi, je m'en rends compte.
Et toi, la première fois que tu as fait du vélo en tandem, est-ce que... Parce que moi, en tout cas, je sais que c'était comme ça, là. Mais tu sais, quand on dit, admettons, on va faire un 50 km, un 60 km. Mm-hmm. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup de difficultés à me figurer comment c'était 50 km de vélo, tu sais, à deux, là. Tu sais, j'avais beaucoup de difficultés à me dire, vas-tu être capable, vas-tu y arriver, tu sais. Je sais pas si toi, ça...
Oui, c'est sûr que, quand commence la saison, on fait un petit 10 km, après on en fait 20. Mais ce que je trouve génial avec le tandem, c'est le partage commun. Maintenant, je me dis, ça doit être plate, faire du vélo tout seul. C'est tellement chouette de faire du vélo avec quelqu'un. On jase, on rigole, on partage, on se dépasse dans tous les sens du mot, l'un et l'autre en tandem, toujours avec dans la sécurité.
Parce
mais
que c'est vrai.
C'est fantastique de jaser ça.
On peut jaser, là.
Oui.
On pédale les deux, mais on...
Donc, on apprend à se connaître, on se raconte toutes sortes d'affaires. Puis, si on n'a pas le goût de jaser, on jase pas, là. On n'a pas toujours des partenaires de vélo qui aiment jaser, puis on respecte ça. Mais quand on en trouve qui jasent puis qui rient, ben...
Beaucoup de partenaires de vélo qui font de la description de paysage.
Oui, ça, c'est très intéressant. Les bénévoles sont pas obligés de le faire, mais il y en a qui le font facilement, plus naturellement. Puis, on peut poser des questions. Hein? On peut dire, qu'est-ce qu'on passe? C'est un cours d'eau? Est-ce que c'est un lac? Est-ce que c'est une rivière? Est-ce que c'est une chute? Puis, ça ajoute au décor, ça ajoute au plaisir de la journée aussi. Puis ça les conscientise. Ben oui, moi je le vois, le lac, je vois la rivière, je pourrais peut-être lui dire que c'est une rivière. Donc les bénévoles deviennent conscients de c'est quoi prêter des yeux à quelqu'un pour la journée, pour le moment. Et ça les fait vraiment mieux voir ce qui les entoure, mieux voir la vie. Et par ricochet, nous fait voir la vie.
C'est très beau et c'est très bien dit.
Et... Donc sortez, venez voir, venez voir la vie.
Oui, parce qu'on a fait une belle randonnée récemment pour Mira, justement. Et il y avait des beaux paysages, c'était bien agréable. Il y avait des belles odeurs aussi.
À la campagne.
Oui.
Alors voilà, vous pouvez vous imaginer.
Un petit peu de pluie aussi.
Un petit peu de pluie, tout était là.
Mais ça a été vraiment très agréable. Et puis, pour la
finalement, on a fait 84 km. Hein?
Ben oui.
On a pu passer le 75.
Ben oui.
Alors l'an prochain, on sera prêt pour le 100.
Ben moi, en tout cas, je suis prêt pour le 100, je pense. Ça, j'ai eu la réponse à cette question-là, je pense. Mais une question, en tout cas, une réponse que j'ai eue aujourd'hui, Lise, c'est que ça nous prend... un troisième livre, je pense.
Alors, je vais commencer à mettre ça dans la mijoteuse.
On va te soutenir, je crois, dans ce projet. On va t'envoyer des ondes positives pour que ça se fasse. Les gens qui l'ont lu, qui ont lu les deux premiers.
Mais tu sais, Martin, c'est quelque chose se livrer. Hein? Moi, c'est comme se mettre à nu. Et c'est quelque chose, avec le recul. Surtout après l'apparition du premier. Se confier, c'est vraiment quelque chose, j'avoue.
J'en doute pas.
C'est peut-être pour ça que je suis plus hésitante, mais je suis sûre que le troisième n'aura pas la même saveur. Ça va être autre chose. Ça va être une liste qui est rendue vraiment ailleurs.
Ouais, c'est tant mieux.
Mais c'est tant mieux, exactement.
C'est tant mieux parce que les deux premiers livres ont été écrits quand même assez rapprochés.
Assez rapprochés, puis c'était beaucoup le vécu, là, fraîchement vécu.
C'est ça.
Ouais.
Là, il y a eu de l'eau qui a coulé
sur les ponts. Puis, des expériences de vie qui m'ont amené vraiment ailleurs par rapport à la personne que je suis. C'est plus ça. Ça va être autre chose. Hey, tu m'incites, là, toi.
Oui, oui, parce que là, tu parles vraiment là, comme si ça allait se faire.
C'est
là.
Ça. La mijoteuse est partie. Hein? Je viens de la brancher, là.
Tu sais, une mijoteuse, des fois, c'est long. Hein,
c'est ce long, c'est meilleur d'ailleurs. Hein, c'est meilleur, c'est comme le vin, ça. Un
quand bon ça
vin
cuit longtemps, là, ça mijote.
Ouais,
là.
C'est ça.
Hein, ça, va être, ça veut dire que ça va être un très bon livre en
plus. Puis pour le chien, ben, on va laisser le temps aussi faire son œuvre dans mon cœur et dans ma tête. Puis il y aura le bon chien qui est pour moi, qui sera fait sur mesure pour moi. Puis je te souhaite la même chose si jamais tu veux un chien, Martin.
Ben, en tout cas, je te le souhaite.
Ouais.
Puis on poursuit nos réflexions.
Mm-hmm.
J'espère que l'émission d'aujourd'hui va vous apporter des réflexions aussi, des réponses peut-être à vos questions. Et puis comme Lise le disait tantôt, si vous avez le goût de sortir, sortez. Sortez de chez vous, sortez de votre appartement. Venez dans les associations. Bouger, hein, c'est important, bouger.
Ouais.
Nous, là, on a bougé, même s'il a fait très chaud, puis on n'est pas mort.
Non, au contraire, on est en forme.
On est très en forme, on va finir.
On est d'attaque pour l'automne, parce qu'il y a des sports d'hiver qui s'en viennent.
Oui, il y a des sports d'hiver, puis on va finir notre saison de tandem, j'imagine, à octobre-novembre.
Exactement, donc il y a encore beaucoup de temps pour rouler.
Il y a encore plein de temps. Puis plein de bénévoles aussi qui demandent.
Qui attendent que nous! Parce que ça prend des non-voyants si on veut des bénévoles et vice-versa.
Au tandem, c'est ça, là. Ça prend un bénévole par personne, par non-voyant, là.
Oui.
C'est pas comme la marche où des fois on peut être plus.
On peut être deux, ouais, parce qu'ils ont deux bras.
Le tandem, c'est vraiment un travail d'équipe en duo.
Ouais.
C'est vraiment extraordinaire, mais moi aussi, le tandem, moi, ça a été une révélation.
Ah, oh, vraiment?
Oui.
Wow!
Oui, de pouvoir dire qu'on peut rouler dans la rue, nous autres aussi.
Oui.
Hein?
Ben, ça revient à, tu sais quoi, Martin?
Hum?
On a notre place dans la société. Prenons-la.
Ça fait du bien que tu dises ça. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien.
Je pense que c'est Pierre Péladeau qui avait dit, on a tous... une place au soleil. Il s'agit de...
Il s'agit de s'installer au soleil et de l'apprendre. Hey, sur ces belles paroles, je te remercie, Lise.
Ça m'a fait un énorme plaisir. C'est... Merci de me l'avoir demandé.
Très agréable. Plein de choses à en tirer. Et c'est ça le but du projet. Puis on continue cette année. On est reparti le vendredi, une nouvelle émission. Puis les émissions sont toujours disponibles, donc ça peut être réécouté, partagé avec les autres. Et voilà, c'est Lise qui a brisé la glace pour notre nouvelle saison. Je vous incite à continuer de nous écrire, de nous faire part de vos suggestions, de vos commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Connaissez-vous.
Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine!